VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Anastasie Tudiech avec vous. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de ce journal, une attaque djihadiste dans une église a fait 9 morts au Caire. En République démocratique du Congo, arrestation de 12 militants du mouvement citoyen Lucha au centre du pays. Lutte anticorruption au Sénégal, le gouvernement annonce avoir recouvré près de 153 milliards de francs CFA en 5 ans. Et ici aux États-Unis, un incendie dans un immeuble du Bronx fait 12 victimes, dont 4 enfants. Le monde aujourd'hui, c'est aussi le sport et l'économie, mais d'abord le journal. 9 personnes ont été tuées aujourd'hui au sud du Caire dans une attaque contre une église menée par un djihadiste armé. La dernière en date a visé la minorité chrétienne depuis le début de l'année en Égypte. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Salwa Jafari.
Devant l'église de Saint Mina de Hilouane, une foule en colère. L'attaque a été fulgurante.
3 hommes masqués à moto ont tiré sur l'un des agents de sécurité de l'église et un propriétaire de magasin, et ils ont également tiré sur une femme traversant la rue.
Les images vidéo diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'assaillant présumé, un homme barbu portant une veste avec des munitions étendues sur le sol, qui semble être peu conscient alors qu'il se faisait menotter. Le ministère de l'Intérieur a en effet précisé dans un communiqué que l'assaillant, djihadiste recherché pour des attaques contre la police, avait été blessé et arrêté. L'homme était armé de fusils d'assaut, de munitions et d'une bombe qu'il avait l'intention de faire exploser dans l'église. Depuis décembre 2016, des dizaines de chrétiens, essentiellement des coptes, ont été tués dans des attaques contre des églises ou des attaques ciblées dans la péninsule du Sinaï et ailleurs dans le pays.
Salwa Jafari. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar, figure politique centrale de la Cyrénaïque, région de l'est du pays, a indiqué qu'il appuyait la tenue d'élections en Libye en 2018, comme le souhaite la communauté internationale. Ces élections font partie du plan d'action présenté en septembre par l'envoyé spécial de l'ONU en Libye, Hassan Salamé. En République démocratique du Congo, 12 militants du mouvement citoyen La Lucha ont été arrêtés à Kananga, dans le centre du pays, alors qu'ils manifestaient contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila au-delà de la fin de son mandat. Norbert Dibelaï, chargé de la communication du mouvement, affirme avoir été roué de coups avec ses compagnons au commissariat provincial de la police par le maire de Kananga, Jean Mwamba Kantou. Monsieur Dibelaï a ajouté que les membres de La Lucha ne connaissent pas encore le motif de leur arrestation. Joint par nos confrères de l'agence France Presse, le maire de Kananga a refusé de réagir aux accusations de La Lucha. La police ougandaise a annoncé aujourd'hui avoir inculpé pour terrorisme 45 citoyens rwandais. Ils ont été arrêtés le 11 décembre à la frontière entre l'Ouganda et la Tanzanie. Faisons le point tout de suite avec Yakuba Ouedraogo.
Le porte-parole de la police ougandaise, Emiliane Kayima, a indiqué que 43 Rwandais ont d'abord été arrêtés à la frontière avec la Tanzanie le 11 décembre dernier. Les deux autres, eux, ont été interpellés plus tard après une enquête plus poussée, selon M. Kayima, qui affirme qu'ils avaient tous de faux documents d'identification et de voyage. Le porte-parole de la police a précisé que l'enquête a été menée à son terme et les 45 Rwandais ont été interpellés de possession de faux documents. À cela s'ajoutent des accusations de terrorisme, leur intention pointant vers cela, ont affirmé les autorités policières ougandaises. D'après M. Kayima, les suspects sont détenus à la prison de Nalufenia, réservée aux personnes suspectées de terrorisme ou d'implication dans des groupes rebelles. Ces 45 Rwandais vivaient en Ouganda et soutiennent qu'ils se rendaient en mission évangélique en Tanzanie. Le Rwanda les accuse d'être des membres du Congrès national du Rwanda, parti d'opposition en exil, formé par d'anciens proches du président Paul Kagame, qui les qualifie de terroristes.
Au Togo, les manifestations qui se sont déroulées hier dans les rues de Lomé à l'appel de l'opposition pour protester contre le régime de Faure Gnassingbé ont fait 12 blessés, dont 5 graves. Un bilan avancé par la coalition Runanira Gahima.
Les 5 blessés graves sont actuellement en soins intensifs, selon Antoine Folly, porte-parole de la coalition de 14 partis d'opposition, lors d'une conférence de presse. Il a fait également état d'une quinzaine d'arrestations en marge de marches qui ont été dispersées jeudi soir par des tirs de gaz lacrymogènes. Les milliers de manifestants qui protestent depuis plus de 4 mois pour demander une limitation du mandat présidentiel et la démission du président Faure Gnassingbé n'ont pas suivi l'itinéraire prévu par les forces de l'ordre et se sont rendus à Décon, dans le centre-ville, en fin de journée, malgré la mise en garde du ministre de la Sécurité, le colonel Yaak Dameham, qui les avait invités à se conformer scrupuleusement au point d'accord convenu avec le gouvernement. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, est à la tête du Togo depuis 2005, succédant son père, le général Gnassingbé Eyadema, qui a dirigé sans partage le pays pendant 38 ans. Un projet de révision de la Constitution est en cours, mais la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels n'est pas rétroactive et autoriserait le président de se représenter en 2020, puis en 2025, ce que rejette l'opposition.
Runanira Gahima, et cette nouvelle qui vient de tomber en dernière minute, le premier ministre malien Abdoulaye Abdoulaye Idrissa Maïga a présenté au président Ibrahim Boubacar Keïta sa démission, ainsi que celle des membres du gouvernement, une démission acceptée par le président. Selon un communiqué de la présidence, dont VOA Afrique a eu une copie, dans sa lettre, le premier ministre a exprimé sa profonde reconnaissance au président de la République pour lui avoir donné l'opportunité de servir le Mali pendant cette exaltante période à des niveaux de responsabilité aussi importants. Nous vous tiendrons bien évidemment informés de l'évolution de la situation. Lutte anti-corruption au Sénégal. Le gouvernement a annoncé avoir recouvré près de 153 milliards de francs CFA, soit plus de 234 millions d'euros depuis 2012, dans le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite engagée sous le président Macky Sall. Selon le gouvernement, ces fonds ont été au fur et à mesure reversés dans le budget de l'État en 2012, en 2013, 2014 et 2015, sans que ne soient toutefois précisées les personnes, les sociétés ou les institutions concernés par ce recouvrement. Et pour les opposants au président Sall, la lutte contre l'enrichissement illicite est en réalité une campagne ciblée pour éliminer des adversaires politiques. En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle a ordonné aux députés de mettre en place un mécanisme qui pourrait mener à la destitution du président Jacob Zuma. La plus haute juridiction du pays reproche au Parlement de ne pas avoir demandé des comptes au président Zuma sur la rénovation de sa résidence privée qui a scandalisé l'opinion. Les travaux ont été faits aux frais du contribuable pour un montant estimé à environ 15 millions de dollars.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
4 enfants figurent parmi les 12 personnes mortes dans l'incendie qui a ravagé hier soir un immeuble du Bronx, un quartier de New York. Faisons le point avec Solange Niamoulissa.
La police a annoncé que 3 petites filles âgées de 1, 3 et 7 ans, ainsi qu'un garçonnet de 7 ans, ont perdu la vie dans cet incendie, le pire qu'ait connu la ville depuis plusieurs décennies. 8 adultes, 4 hommes et 4 femmes ont également trouvé la mort dans ce sinistre. La cause exacte de l'incendie n'est pas encore connue et doit être déterminée par les enquêteurs. Le feu s'est rapidement propagé du rez-de-chaussée aux 4 étages de cet immeuble de briques, comme il y en a des milliers à New York. Le bâtiment comptait 25 appartements. 10 personnes avaient été tuées en mars 2007 quand un feu avait ravagé une maison, également dans le Bronx. Il s'agissait alors du pire incendie dans la ville depuis 1990, à l'exclusion des attentats du 11 septembre 2001.
Toujours ici aux États-Unis, l'usage récréatif du cannabis sera légal en Californie à partir du 1er janvier, ce qui fera du Golden State le plus gros marché mondial de l'herbe. 8 États américains, dont le Colorado et l'État de Washington, en plus de la capitale fédérale, Washington, ont déjà légalisé la drogue douce, mais son usage récréatif, désormais autorisé dans ce qui est l'État le plus peuplé des États-Unis, pourrait générer une hausse des revenus du secteur assez conséquente, passant de 6,7 milliards de dollars en 2016 à 22,6 milliards dès 2021. En Iran, 52 personnes ont été arrêtées à Mashhad, deuxième ville du pays, alors qu'elles manifestaient hier contre la montée des prix. Les manifestants scandaient des slogans visant le gouvernement du président Hassan Rouhani. Le chef du tribunal révolutionnaire de Mashhada a fait savoir que ces personnes avaient été arrêtées pour avoir scandé des slogans sévères. Il a également mis en garde les protestataires tout en rappelant le droit du peuple à manifester. Les autorités saoudiennes ont libéré deux fils du défunt roi Abdallah, arrêtés il y a près de deux mois dans le cadre d'une vaste purge anti-corruption. Fin novembre, Metab Ben Abdallah, un troisième fils de l'ancien roi, avait été libéré. Ne reste en détention que leur quatrième frère, le prince Turki Ben Abdallah, selon une source proche du gouvernement. Le procureur général d'Arabie Saoudite estime que depuis plusieurs décennies, au moins 100 milliards de dollars ont été détournés ou utilisés à des fins de corruption dans le royaume. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco présentée ce soir par Dili Diko.
Le cacao, le sucre et le café ont souffert en 2017, selon la revue annuelle des matières premières agricoles. Les récoltes abondantes ont pesé sur leurs cours. Ceux du sucre, qui avaient atteint en février leur plus haut niveau de l'année, ont reculé pour atteindre leur plus bas niveau au dernier trimestre de l'année. À la suite d'une saison record en Afrique de l'Ouest, favorisée par une météo clémente, le cacao est plombé par une récolte abondante. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, a dû fixer des prix 40% plus bas que l'année précédente. Le Burkina Faso dispose depuis ce vendredi de la télévision numérique terrestre TNT. Le pays devient le premier pays d'Afrique de l'Ouest à basculer vers cette technologie permettant de diffuser plusieurs chaînes en qualité numérique sur une seule fréquence. Le lancement de la TNT a nécessité 45 milliards de francs CFA et concerne pour l'instant une quinzaine de chaînes avec un taux de couverture nationale de 70% du territoire burkinabé. La compagnie Apple s'est excusée jeudi d'avoir délibérément ralenti certains de ses iPhones pour compenser le vieillissement de leur batterie. Elle a également annoncé la baisse du coût de remplacement des batteries pour les iPhone 6 de 79 à 29 dollars. L'aveu d'Apple relance à nouveau le débat sur l'obsolescence programmée des appareils électroniques.
Place au sport à présent avec vous, Yacouba Ouédraogo, bonsoir.
Bonsoir Anaï, bonsoir à tous.
Alors plus que deux semaines avant le début du championnat d'Afrique des Nations, Maroc 2018, les pays qualifiés s'activent.
Tout à fait Anna, avant de s'envoler pour la Tunisie où il doit effectuer un stage de 10 jours, le Rwanda a dévoilé sa liste de 23 pour la compétition au Maroc. Rayon Sport FC et l'APR sont les clubs les plus représentés. Deux matchs amicaux contre l'Algérie et le Soudan sont prévus lors du stage. De son côté, la Guinée se dit prête. Après un dernier match amical hier, l'AP Bangoura a son idée sur ses 23 pour aller au Maroc. Le Oroya, plus grand club du pays, aligne 7 joueurs dans cette liste. Au Burkina Faso, Drissa Traoré Malo, dit saboteur, a dévoilé aujourd'hui une liste de 25 étalons pour entamer la préparation du CHAN 2018 qui, on le rappelle, se déroulera au Maroc du 14 janvier au 4 février 2018.
Saboteur, je note le surnom. Cooper, Ronaldo, Zidane, on connaît désormais les lauréats des Globe Soccer Awards 2017, Yacouba.
Rendez-vous incontournable de fin d'année. Depuis 8 éditions, les Globe Soccer Awards ont rassemblé le gratin du football mondial à Dubaï pour la cérémonie de récompense. Parmi les lauréats, le sélectionneur de l'Égypte Hector Cooper, l'Argentin, qui a qualifié les Pharaons pour la prochaine Coupe du Monde, a été désigné meilleur entraîneur d'une équipe arabe. L'Arabie Saoudite a été reconnue meilleure équipe arabe de l'année, elle qui sera du rendez-vous de la réussite 2018.
Et puis les prouesses du Real Madrid ont encore été récompensées lors de ces Globe Soccer Awards 2017.
Les Merengues, auréolés de leur superbe année avec 5 trophées, se taillent à la part du Lyon. Le prix du meilleur club, celui du meilleur entraîneur pour Zinedine Zidane et meilleur joueur de l'année pour Cristiano Ronaldo. La Liga repart avec le prix du meilleur championnat du monde de l'année.
Et puis tennis pour terminer, Yacouba, Djokovic est forfait pour le tournoi d'exhibition d'Abu Dhabi.
Tout à fait, Anna, en proie à des douleurs au cou de Novak Djokovic, a renoncé à son retour prévu sur les cours lors de l'exhibition d'Abu Dhabi. Le Serbe a même laissé planer des doutes sur sa participation à l'Open d'Australie qui se déroule du 15 au 28 janvier prochain. L'ancien patron du circuit ATP, qui pointe désormais à la 12e place, n'a plus joué depuis Wimbledon.
Passion Sport, c'était Yacouba Ouédraogo. Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui, deuxième partie, place au dossier du jour. Au moins 12 personnes, dont 4 enfants, sont mortes hier dans l'incendie d'un immeuble d'habitation dans le quartier du Bronx à New York. C'est le pire incendie depuis un quart de siècle, a affirmé le maire de New York, Bill de Blasio. Le feu s'est rapidement propagé du rez-de-chaussée aux 4 étages de cet immeuble de briques, comme il y en a des milliers à New York. Le bâtiment comptait 25 appartements. Pour un témoignage, John Linden a joint un New-Yorkais, Alpha Issiaga Diallo.
Ça, c'est dans le Bronx. Pour la petite histoire, c'est la deuxième fois qu'il y a eu un incendie comme ça, mortel, en 1990. On se souvient, il y a eu un incendie. 87 personnes avaient perdu la vie là-bas, à quelques mètres de là où l'incendie aujourd'hui encore s'est produit. C'est dans le Bronx. C'est Prospect Avenue et la 183e Street dans le Bronx. Il y a eu l'incendie hier vers 9h du soir et l'incendie n'a pas été maîtrisé très tôt. Il y a eu 12 morts, il y a 4 blessés graves et jusqu'à présent, l'auteur du crime n'a pas été jusqu'à présent arrêté, mais l'investigation continue. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas au courant d'une communauté, en tout cas africaine, touchée, mais pour le moment, c'est l'investigation. Vous savez que c'est la nuit, ça s'est passé pendant la nuit. Il y a eu beaucoup de dégâts, il y a plus de 400 pompiers qui ont été déployés. Le feu a été difficilement maîtrisé, mais tout est dans l'ordre maintenant. Je crois que Bronx est en train de pleurer leur mort.
Alors, vous parlez de l'auteur, il s'agit donc d'un incendie criminel, c'est ça?
Non, pour le moment, on ne peut absolument rien prononcer. L'investigation est en cours. On aura en tout cas une situation claire, car même le maire, le gouverneur de New York, chacun a donné son point de vue. Aujourd'hui, le lieu est complètement bouclé. On ne peut pas s'y rendre. Mais pour le moment, en tout cas, j'ai dit, Bronx est en train de pleurer les morts. 12 morts, 4 blessés graves et encore la Croix-Rouge est en train de donner de logements à ces, parce que c'est un grand building qui a pris feu et je crois que les gens sont en train d'être éparpillés partout dans le Bronx pour les reloger, car vous savez que c'est l'hivernage qui est là, il fait excessivement froid.
Alors, vous dites que l'incendie s'est produit dans le Bronx. Pour ceux qui ne connaissent pas les États-Unis, c'est quel genre d'agglomération et l'immeuble en lui-même était-il vieux ou c'est nouvellement construit?
Pour le moment, on se méfie de donner des détails. Vous savez que la police américaine, elle est un peu stricte. Certains parlent qu'il y avait des défaillances. On ne sait pas ce qui va se révéler, mais l'essentiel qui est là, même si c'est un vieux building, vous savez qu'aux États-Unis, à chaque fois, on repart et on rentre toujours, on peine, on met tout dans des conditions. Mais quand même, il y avait eu quand même quelques soucis, en tout cas, quelque part, avant ce jour-là. Mais l'essentiel qui est là, la police de New York est en train de mener les enquêtes pour traquer ceux ou celui qui, en tout cas, l'auteur du crime, soit... Le propriétaire du building peut être un peu touché parce que compte tenu de la maintenance, mais on ne sait pas pour le moment.
Le témoignage d'Alpha Issiaga Diallo, un habitant de New York. Au Libéria, le candidat malheureux du second tour de la présidentielle de mardi a concédé sa défaite. Joseph Boakai a félicité son adversaire, George Weah, et a demandé à ses partisans de respecter le verdict des urnes. Le vice-président sortant, Joseph Boakai, s'est exprimé dans un message solennel à la Nation. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Monrovia un ancien journaliste de la Radio Nationale, Mohamed Kenneth.
Tous les Libériens ont accepté ce discours avec réconciliation, avec paix et avec bonheur. Parce que quand on regarde le passé du Libéria depuis décembre 1989 jusqu'en 2003, juste quelques jours avant le départ de M. Taylor, le Libéria a été un pays qui a été traumatisé. Il y a eu presque 250 000 morts. Donc la paix est revenue en 2005, il y a eu des élections. Et il y a maintenant 12 ans que vraiment on n'a pas eu de guerre. Donc les gens craignaient que les partisans, les sympathisants du Parti de l'Unité, de M. Boakai, n'allaient pas accepter cette victoire. Mais heureusement, non, ce n'est pas le cas. Par la voix du vice-président M. Boakai, candidat à la présidence de l'UP, tout le monde est content, même les partisans de M. Weah.
Est-ce que George Weah a déjà répondu à son discours?
Bien sûr, il n'a pas encore répondu officiellement, mais il a fait un tweet Il a fait un tweet dans lequel il dit que franchement, ça lui fait très bon au cœur que les Libériens, 62 ou 63% des Libériens vont élire le président de la République et qu'il promet qu'il y aura un changement. Il a fait ce tweet-là il y a une ou deux heures, mais pas d'abord de discours officiel. Donc on attend. La nouvelle que je viens d'avoir il y a deux heures de temps, on dit qu'avant la tombée de la soirée, il va faire un discours. Donc nous attendons.
Est-ce que la victoire de Weya a-t-elle surpris, surtout dans les milieux intellectuels?
Là, je dis non, non. La plupart des intellectuels, il y a eu plein d'intellectuels qui ont quitté les autres partis politiques pour rejoindre M. Weya. Il y en a qui disaient, oh non, ce n'est pas un homme éduqué, ce n'est pas un homme instruit. Il est né dans un bidonville, il a grandi, c'est à cause du football qu'il est devenu très célèbre. Mais ces soi-disant intellectuels-là se sont rendus compte après qu'il faut accepter sa victoire. Donc la position de la plupart des intellectuels, c'est qu'ils sont tous d'accord de se mettre à disposition du nouveau président afin de transformer le Libéria.
Hélène Johnson Sirleaf a-t-elle encore dit quelque chose?
Pas encore.
Et quelle leçon faut-il tirer de cette élection?
Il faut que les politiciens sachent maintenant que les gens, les Libériens ont les yeux grands ouverts. Ce n'est plus comme il y a 20 ans ou bien il y a 30 ans où les politiciens pouvaient dire n'importe quoi et puis passer inaperçu, personne ne tenait compte de cela. Maintenant, je te dis que depuis les premières élections de 2005, suivies des élections de 2011, les deux élections sénatoriales spéciales de 2014 et celles de 2010, et maintenant la récente élection-là, tout le monde sait que le droit de vote est très important et qu'à travers l'élection, on peut détrôner quelqu'un ou bien on peut le mettre sur place. Donc la vérité est que vraiment le peuple a su que c'est très très important de renforcer la démocratie à travers les élections. C'est la grande leçon que l'on peut tirer de ce qui s'est passé.
Mohamed Kenneth, ancien journaliste de la radio nationale ELBC, joint au Libéria.
Dans, à votre avis, ce vendredi, le second tour de l'élection présidentielle libérienne qui s'est conclu avec l'annonce de la victoire de George Weah et l'appel du vice-président Joseph Boakai concédant la défaite. Que pensez-vous de ce dénouement rapide et quel défi le président élu devra-t-il relever? Laissez vos numéros et commentaires ou appelez en direct à partir de 18h temps universel au 001 202 205 2633. Rendez-vous sur voafrique.com.
Au Niger, dans la région du Diffa, des structures humanitaires ont mis en place des centres d'appui psychosocial pour accompagner les victimes des atrocités de la secte Boko Haram, les jeunes adolescents notamment. Notre correspondant Abdulrazak Idrissa s'est rendu dans l'un de ces centres.
Un peu à l'écart du site des réfugiés et déplacés de Kabale-Ware-Kazma, à une soixantaine de kilomètres de Diffa, sur un espace aménagé, un groupe de jeunes garçons joue au football. Un autre s'essaye au basketball alors que les jeunes filles chantent et dansent. Pas trop loin de cet espace, une bâche bleue recouvre des piquets en fer solide. C'est la salle des cours d'alphabétisation. Nous sommes au centre du dispositif d'appui psychosocial pour adolescents, Diapado, mis sur pied par l'ONG Kopi Niger. Moussa Nuhu Rachid est un des assistants projet à Kopi Niger.
Au niveau de ces espaces, il y a l'éducation non formelle. L'éducation non formelle consiste à aider l'enfant à travers des jeux, les accompagne aussi à les pratiquer au quotidien pour les aider à sortir de leur vécu suite aux crises auxquelles ils ont été confrontés. Devant eux, il y a eu des victimes. Donc parmi les enfants, il y en a qui ont gardé ces souvenirs sombres, qui les fait vraiment souvent revivre ces expériences, qui les met dans un état un peu qui n'est pas bien.
Chaque jour, depuis des mois, des animateurs se rendent au niveau de ces centres. L'animateur du jour de notre passage sur ce site est Inoussa Adamou Salifou.
À travers ce genre de jeu, l'enfant se retrouve. L'enfant vient, il joue avec ses amis, ses pères. Il comprend que malgré tout ce qui s'est passé, il peut vivre heureux. Il peut vivre au sein d'une société, au sein d'une communauté, avec des gens qui les accueillent bien, qui les permettent de s'épanouir. Et pratiquement depuis qu'on était venu, parce que c'est un nouveau site qu'on a débuté les activités en juin. Au début, quand on avait commencé, donc les enfants, ils étaient un peu réticents même aux activités, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de le faire.
Mais petit à petit, avec le temps, ils commencent à s'adapter. Et vraiment, maintenant, comme vous le constatez, sur le terrain, tous les enfants sont heureux. Ils ont même pratiquement oublié ce qu'ils ont vécu.
Alors que les enfants de la tranche d'âge 9-14 ans chantent et jouent sur le terrain multisport, les 15-18 ans, eux, prennent des cours de kanuri, la langue locale, dans la salle d'à côté. Ceux qui ont suivi les cours d'alphabétisation le matin pratiquent les activités récréatives l'après-midi et vice-versa. Tout se passe au grand plaisir de ces enfants. Abdelrazak Idrissa, de retour de Difa pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En République centrafricaine, rackets et corruption sont monnaie courante sur les voies publiques. Les usagers s'en plaignent. Ils accusent directement les groupes armés et les agents de l'État en service sur les barrages routiers. C'est un reportage à Bangui de Freeman Sipila.
Aujourd'hui, circuler sur les axes routiers en dehors de la capitale Bangui devient de plus en plus agaçant. Les hommes armés tiennent des barrages routiers dans toutes les zones sous leur contrôle. Ils imposent des taxes et des frais aux usagers, ce qui leur fait des millions de dollars chaque année. Dans les régions contrôlées par le gouvernement central, les usagers accusent directement les agents de l'État de corruption et de rackets. Ils pointent du doigt les services des eaux et forêts, les policiers, gendarmes et douaniers. Ici, sur la route de Boili, à une vingtaine de kilomètres au nord de Bangui, il est 3h de l'après-midi ce jour-là. Le soleil se prépare à disparaître dans le nuage sombre, traversé d'un éclat doré. Les pousseurs de bois de chauffe reviennent à la queue leu-leu, fatigués, épuisés par le volume du chargement de leur pousse-pousse. Jean-Claude, l'un d'entre eux, couvert de sueur, vient d'être racketté par un agent des eaux et forêts. Il est très irrité.
Il nous menace par voie quand on arrive au niveau du barrière. Il nous impose de déposer les wagons. Nous sommes en train de transporter pour chercher nos pains quotidiens. Pour moi, en tant qu'un être humain, l'enfant du pays, je demande à notre gouvernement de nous donner de main forte.
Ce phénomène est connu de tous sous l'appellation de formalité. Selon les passagers, donner l'argent est devenu aujourd'hui une règle lors des contrôles routiers. Au PK26 de la capitale, un véhicule de transport en commun vient de passer 2 heures devant une barrière. Le propriétaire explique.
Je suis même victime. Les douaniers m'ont perturbé beaucoup pour mes marchandises. Souvent, quand j'arrive au niveau de PK26, même j'ai mon TL, ils vont me demander les papiers. Parfois, même, je leur présente mon papier, ils me demandent l'argent. C'est notre pays. Si on ne fait pas, on reste au quartier. Ils vont nous dire qu'on est des voyous, on est des rebelles, on est des balakas ou bien des sélékas. Comment on va faire?
Le phénomène de racket est généralisé sur les axes routiers de la République centrafricaine. Adolphe, 33 ans, conducteur du taxi-moto, appelle les autorités à la responsabilité. Nous avons beaucoup souffert après ces événements qui ont secoué le pays. Nous demandons au gouvernement de nous envoyer de vrais agents pour nous sécuriser. Ceux qui sont sur les barrières ne veulent comprendre personne. Ils nous demandent des papiers. Lorsque nous leur disons que nous avons perdu tous nos papiers dans les pillages ou l'incendie de nos maisons, ils ne veulent rien comprendre. Ils nous imposent de payer 500 francs pour les formalités avant de partir. Si tu n'en as pas, ils te maltraitent. Ils te demandent de rester debout sous le soleil. Nous sommes des pères de famille. Moi, je trouve cela anormal. La quasi-totalité des agents de l'État rencontrés sur les barrières n'ont pas souhaité s'exprimer, prétextant n'avoir pas l'autorisation de leur hiérarchie. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Elle a été mise en onde par Lionel Gahima, à la console Nelson Lopez. L'information continue sur voafrique.com et sur notre page Facebook. Dans quelques instants, c'est À votre avis, animé par Timothée Donangmaï. Très bonne soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.